60e émission. Quentin est aux manettes. Je reçois Jean-Claude Degan. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Abel.
Alors, Jean-Claude, on se connaît depuis longtemps. Je vous croise un petit peu partout. Vous êtes comme moi, vous êtes dans les milieux vélo depuis longtemps. Et comme moi aussi, vous changez de temps en temps de casquette. Donc, on se voit de temps en temps. On va essayer de faire connaissance plus. Y compris des choses que je ne connais pas du tout. Alors, dites-moi d'abord, c'est quoi votre formation ?
Alors, je suis civil pont, ingénieur civil des ponts et chaussées. Donc,
d'accord.
Je suis un jour venu de mon Nord natal, famille ouvrière du Nord, et voilà, j'ai fait un grand voyage dans la société qui m'a amené à l'école des ponts. Voilà, un autre monde et parcours assez atypique finalement. Et je pense que ce parcours est resté atypique tout du long de. C'est 30 ou 40 dernières années.
D'accord, mais alors qu'est-ce que vous avez commencé au début, jusqu'à ce que vous tombiez dans le monde du vélo ?
À l'école des ponts, j'ai fait un travail de fin d'études sur ce qui était à l'époque les premiers mouvements de relance des transports publics.
Ah d'accord.
Donc j'ai découvert ce qui est le CEREMA aujourd'hui, où j'ai fait mon stage de fin d'études. Et voilà, je suis tombé dans le bain, et puis je pense que c'était en 1976, et j'en suis jamais sorti.
Alors, on va aller rapidement. Donc, c'est quoi les premières choses que vous avez faites alors ?
Voilà, donc, en 1981, j'ai eu le plaisir, la chance d'avoir un premier job à la direction des transports terrestres du ministère des Transports, et qui m'a donné une vue un peu globale sur le secteur des transports, de la mobilité. C'était l'époque de la loi d'orientation des transports intérieurs, donc j'ai beaucoup travaillé aux textes qui ont organisé la décentralisation.
Des textes dont on parle à nouveau depuis quelque temps, depuis que la loi d'orientation des mobilités, qui va remplacer la loi d'orientation des transports intérieurs, est en discussion.
Oui, ou j'irais plutôt la compléter.
Oui.
Enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de travailler sur un texte fondateur. On avait à l'époque abrégé les décrets de 49, etc. Et on a bâti un socle juridique qui, effectivement, vit encore et aujourd'hui, naturellement, a besoin d'être toiletté, complété.
D'accord. On va essayer d'aller assez rapidement. Donc ensuite.
Ensuite, c'était
les. Je voudrais qu'on arrive au vélo quand même. Hein.
C'était les années 80.
Ouais.
Hein, donc, à la fois, j'ai compris le rôle de la puissance publique dans la mobilité. Hein. On prononçait déjà le mot vélo à l'époque. Hein. C'était l'époque où Michel Crépeau avait lancé ses.
Oui, mais c'était considéré comme pas très sérieux.
Très marginal, effectivement, très marginal. Donc j'ai toujours eu de la tendresse pour les marginaux, disons. Et non, j'ai pensé effectivement qu'il était important d'aller dans le monde de l'entreprise. Parce que c'est quand même là qu'on met en place les choses. Le politique donne l'impulsion, mais l'entreprise fondamentalement fait. Donc je suis entré dans les filiales du groupe SNCF. C'était l'époque du début des transports départementaux. Donc la SNCF avait une série de lignes routières dont elle ne savait pas quoi faire. Elle avait peur de se faire botter le cul par les conseils généraux qui ne l'appréciaient pas forcément. Et donc moi, quand j'ai été recruté, ma feuille de route, c'était « Bon, bah, monsieur, vous avez là une cinquantaine de départements où on pourrait éventuellement faire quelque chose. » Moi, j'avais expliqué que je voyais un groupe de transport derrière, donc on m'a dit bah monsieur allez-y, prenez vos responsabilités. Voilà, et puis on s'est revu je dirais 5 ans plus tard avec une cinquantaine de départements qui étaient devenus clients de ces filiales de la SNCF, et donc ça a permis de structurer une boîte qui aujourd'hui est bien connue, qui s'appelle Keolis.
D'accord. Hein,
voilà, donc il y a eu beaucoup d'épisodes, mais donc voilà, j'ai participé en mettant les mains dans le cambouis à la structuration de cette grande maison.
Mais là, on n'est toujours pas au vélo.
On n'est toujours pas au vélo.
Je voudrais qu'on y arrive, là, maintenant.
On y arrive. Alors, après le groupe SNCF, donc j'étais aussi dans cette grande maison, j'ai eu la possibilité de travailler sur un sujet aussi qui était un peu marginal, qui était le périurbain ferroviaire. J'étais directeur du périurbain ferroviaire dans les années 2000, après la crise de 95, où il y avait déjà eu des remises en cause forte. Et puis, en 2002, j'ai pensé que mon parcours effectivement était très complet dans cette grande maison et que pour aller plus loin, effectivement, il fallait sans doute que je crée une activité personnellement, ce que j'ai fait, donc toujours dans les dans la mobilité en général, c'était l'époque déjà du numérique, et donc Moviken.
Voilà, donc c'est en 2002 que vous créez Moviken.
Je crée Moviken, donc on va lancer non seulement l'idée, mais on va mettre en place les débuts d'une plateforme numérique nationale des transports publics, qui était un très grand chantier, dont nous avons effectivement poser les bases très très solidement. Donc ce chantier, il a duré effectivement jusqu'en 2016. Mais pendant cette période, le vélo est arrivé très très fortement.
Alors décrivez-moi Moviken. Alors c'est une plateforme de tous les modes de transport.
Donc Moviken, on a repris effectivement des actifs d'une société de cartographie qui était une grande de la cartographie routière, et on a décidé de l'orienter vers les mobilités.
D'accord.
Donc, commencé effectivement à collationner l'information voyageur, celle des agglomérations, des régions, celle de la SNCF. On a cartographié tout ça en liaison avec les collectivités. Et la question du vélo est venue, je dirais, dans les années 2010.
D'accord.
En particulier avec la région Île-de-France. Nous avions été à l'époque sélectionnés par le conseil régional pour mettre en place un serveur d'information de calcul d'itinéraires cyclables avec les itinéraires, la cartographie ad hoc, etc. Une affaire que le président de la région à l'époque avait porté,
Jean Peluchon,
qui était Jean Peluchon, soutenu jusqu'au jour où Google a effectivement également annoncé des ambitions dans ce domaine-là.
Ah bon,
Et nous sommes.
Expliquez-moi ça bien.
Voilà. Bah donc Google effectivement a. Nous avons.
Google Maps, c'est ça.
Oui. Google Maps a lancé une solution vélo effectivement dans les.
C'est-à-dire qu'ils mettaient du vélo sur leur carte.
Ils mettaient du vélo sur leur carte. Hein, c'est-à-dire que très franchement, c'était assez primitif.
Ça l'est toujours à ma connaissance.
Ça l'est toujours. C'est-à-dire que le vélo, c'est une voiture qui roule à 18 km/h, quoi. Alors que quelquefois, effectivement, il n'y a pas de passage pour les vélos.
Les tracés sont mis de manière un peu aléatoire.
Ouais, donc c'était très, très primitif, mais bon.
Mais ça a quand même coupé votre contrat avec l'Île-de-France ?
Oui, en ce sens, effectivement, que les collectivités n'ont pas... La région Île-de-France, à l'époque, n'a pas souhaité, effectivement, se mettre en concurrence avec Google. Parfaitement consciente, effectivement, que les solutions de Google étaient sans doute beaucoup plus rustiques.
Mais elles étaient quasi gratuites.
Elles étaient quasi gratuites, voilà. Puis peut-être la crainte, effectivement, de se retrouver épinglé dans la presse en disant, voilà, Monsieur Huchon lance un défi à Google, quoi. Donc, nous l'avons regretté, nous avons quand même avancé. Nous avons fait beaucoup de recherches développement avec le CEREMA, avec l'INRETS, un projet qui a donné lieu à de grosses publications qui s'appelait Port Vert, avec Frédéric Héran également. Et ce, parallèlement à nos activités dans le domaine des transports, parce que effectivement, nous avions effectivement mis au point cette plateforme que nous avons ensuite déclinée dans les bus, dans les trains, dans les gares.
Et elle existe toujours cette plateforme ?
Alors, ne, Moviken a été cédé en 2016 à une entreprise qui s'appelle Reactis, qui a pris la suite, effectivement.
Parce que j'en entends plus parler, c'est pas...
Non.
Ça existe toujours.
Donc, aujourd'hui, Reactis, effectivement, a gardé cette solution en B2B pour certains de...
Parlons français.
Business to business, c'est-à-dire, oui. Effectivement,
entre entreprises.
Nous avions une plateforme grand public,
oui.
Et aujourd'hui, effectivement, Reactis la décline de façon professionnelle.
Bon, donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé publiquement.
Tout à fait, et parce que, aussi, effectivement, ces solutions nécessitent, effectivement, des financements importants. Nous avons levé des fonds. Nous avons, à l'époque où l'ISF existait, nous avons réussi à fédérer 3000 actionnaires ISF autour de notre projet.
Quel rapport avec l'ISF, là, j'ai pas compris.
Les fonds investis dans notre société donnaient lieu à une réduction à due concurrence de l'ISF. Voilà, c'est un système qui s'appelait l'ISF TEPA et voilà qui a été supprimé parallèlement effectivement à la suppression de l'ISF. Donc nous avons eu effectivement nous avons développé et financé le développement de la société par ce moyen. Et puis quand l'étape suivante c'est donc nous avons été cotés au marché libre.
D'accord.
Et quand l'étape suivante, effectivement, s'est présentée, nous cherchons un ticket important. Et bon, bah, chacun sait effectivement que, en particulier à l'époque, c'était en 2014-2015, nous escomptions beaucoup sur une opération PEA-PME. Voilà, c'est encore un système de financement des PME sur lequel les pouvoirs publics comptaient beaucoup, nous aussi, à l'époque. Et voilà, l'opération ne s'est pas faite.
Alors, comment vous vous situez par rapport à GeoVélo, par exemple ?
Nous avons été concurrents.
D'accord. Okay.
Et alors, donc, aujourd'hui, nous sommes partenaires sur les projets, concrètement.
Alors, quand vous dites aujourd'hui, donc, sur quoi on va passer maintenant, c'est locomotion.
Tout à fait.
Alors, donc, Moviken, c'est terminé.
Voilà, donc j'ai cédé Moviken, effectivement, en mars 2016. Et le jour d'après, effectivement, dans ma tête, c'était l'heure du vélo. Parce que, effectivement, j'ai toujours cru au vélo. D'abord, je l'ai pratiqué. Quand j'étais étudiant à Lille, j'ai vécu Lille à vélo. Et donc, j'ai bien le souvenir, effectivement, que le vélo... peut-être un mode de transport urbain parfaitement pertinent, aussi rapide, plus rapide que les bus, un peu moins rapide que les trains périurbains. Aujourd'hui, au moins aussi rapide que, quasiment aussi rapide que la voiture. Voilà, donc, pour moi, le vélo est une grande affaire et c'est pour ça que dès le lendemain de la session de week-end, je suis passé sur le sujet.
Eh bien, on va détailler ça après une pause musicale.
Cause commune.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Abel Guggenheim, la 60e de Rayon Libre, je reçois Jean-Claude Degan. Donc on a parlé de Moviken, Jean-Claude, et maintenant on passe à Vélocomotion, qui est l'entreprise que vous avez créée après. Alors, décrivez-la nous.
Alors, l'idée, effectivement, c'était de mettre en place une solution numérique pour le vélo. Donc nous avions déjà travaillé sur les calculateurs d'itinéraires cyclables. Nous avions déjà une bonne connaissance de l'appréhension de ce sujet. Et donc en créant Vélocomotion, on a voulu donner une densité entrepreneuriale quelque part à la fois à notre engagement et à ce secteur, avec le sentiment que sur le vélo, les choses sont en train de basculer et que c'est le moment d'y aller. Quand on crée une boîte, il faut j'ai appris qu'il fallait pas y aller trop vite, hein, mais il faut naturellement éviter d'y aller trop tard. Donc en 2016, j'ai pensé que c'était le moment d'y aller avec une idée simple, hein, c'est que le vélo, quand on regarde effectivement ce qui se passe hors de nos frontières, peut constituer l'un des modes de transport urbain. Alors quand on parle de déplacement, on parle de part de marché, 25-30% des déplacements. Si demain le vélo fait 30% des déplacements en milieu urbain, et comme on sait que grosso modo les transports représentent 30 à 40% des émissions, hein, sans parler de l'effet induit sur l'urbanisation, grosso modo, je dirais, le vélo c'est 10% de réduction des émissions, pour dire les choses de façon extrêmement simple. Et c'est un sujet qui mérite d'être regardé, parce que finalement, pour le coup, on a des, quand on fait métro du Grand Paris, c'est 35 milliards. Quand on fait une ligne des TGV, depuis 30 ans, on a mis une petite centaine de milliards là-dedans. Pour le vélo, on n'a pas besoin de dizaines de milliards. C'est une affaire de budget modeste. Par contre, c'est un changement de mode de, une évolution des modes de vie et changement culturel important. Donc voilà. Donc je pense que avec Vélocomotion, on a voulu adresser cette problématique-là. Donc, on est parti effectivement en cherchant à fédérer les loueurs privés de vélos sur une plateforme couvrant le territoire français et l'Europe proche.
D'accord. Et donc cette plateforme, c'est une plateforme informatique. Et vous regroupez combien de...
Donc aujourd'hui, on a très vite regroupé 300 loueurs en France. Hein, donc ça nous a permis de prendre la mesure de cette profession. On était parti d'une étude de marché de la Direction Générale des Entreprises, du ministère des Finances, qui disait qu'il y a quelques 8000 loueurs, points de location en France. Donc, donc nous on a vérifié. Nous on trouve 300 professionnels qui sont effectivement des pour une part des qui sont des vélocistes
D'où sortent les 8000 alors?
Les 8000, c'est quand on considère effectivement l'ensemble des parkings où il y a un vélo ou deux mis à disposition, les hôtels, etc. Alors, mais en même temps, ça veut dire
qu'il y a un potentiel.
Voilà, nous, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il faut passer de 300 à 8000. Voilà. Mais les 8000, il faut effectivement les identifier, leur donner des outils, les inclure dans ce type de plateforme. Donc c'est un travail qui naturellement est lourd et qui nécessite, ça on l'a compris rapidement, non seulement du financement, bien naturellement. Mais sans doute aussi de travailler avec les pouvoirs publics. Sur ce type de projet, comme sur d'autres, dans le domaine du vélo, il faut travailler avec les autorités organisatrices de la mobilité.
Et il faut aussi une certaine technicité.
Et il faut aussi une certaine technicité. Oui. Donc, on a aujourd'hui une plateforme numérique.
Oui.
On a également qui évolue comme une plateforme de services autour du vélo. On travaille avec des grandes autorités organisatrices, les régions, les grandes agglomérations. On a aujourd'hui plusieurs projets en préparation de plateformes servicielles autour du vélo. Donc, ça veut dire effectivement y trouver bien sûr des offres de location. Donc ça peut être bien sûr des offres urbaines, mais des offres dans les zones touristiques, ça peut être de la location longue durée, ça peut être des différents services de réparation, de calcul d'itinéraire, de financement des vélos. Voilà, une espèce de guichet organisé par les collectivités dans le cadre de leur volonté de déployer le vélo comme solution de mobilité.
D'accord. Mais alors, tout à l'heure vous parliez de chiffres de 30% de déplacements à vélo, qui sont les chiffres qu'on voit dans certains pays, aux Pays-Bas, au Danemark, qu'actuellement, même les régions, les villes, et encore plus le pays, ne visent pas. Ils visent des objectifs de 9 ou 10%. Donc vous croyez à ces objectifs et vous pensez qu'on va les atteindre dans des délais raisonnables ?
Oui, alors comme toujours dans ces sujets-là, on travaille sur le long terme. Moi, si j'en juge par mon expérience dans le domaine des transports publics, j'ai commencé effectivement à développer les thèmes de promotion des transports publics personnellement en 1979. Voilà, aujourd'hui, on y est encore.
Oui, c'est vrai.
On y est encore. Et les discours, les raisons n'ont pas changé, les motivations n'ont pas changé, mais on en est effectivement plus au même niveau. Donc les parcours, les changements d'habitude, de mentalité, de politique publique, tout ça, ça prend du temps. Je pense que ce sera pareil pour le vélo. J'espère simplement qu'on sera plus rapide.
Alors justement, de ce point de vue, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que les changements actuels, qui sont assez spectaculaires dans les discours, est-ce que vous avez l'impression que c'est suivi des faits?
Je pense que, si je reprends le parallèle avec le transport public, aller plus vite pour plusieurs raisons. La première, c'est que le vélo, c'est efficace.
Oui.
Quand on dit on amène les gens au transport public, il y a 20 ans, on leur proposait un mode de transport qui souvent était moins rapide que la voiture, d'autant plus que les autoroutes se développaient. Aujourd'hui, en milieu urbain dense, le vélo, il est plus rapide.
Oui, mais vous avez remarqué comme moi que cet argument, il passe difficilement. C'est-à-dire que...
Il passe difficilement, effectivement, parce qu'un mot, tant qu'on ne l'a pas vécu.
Oui, c'est ça.
Tant qu'on ne l'a pas vécu.
En particulier, on a remarqué qu'en 1995 et en 2003, où il y a eu des grandes grèves des transports publics, il y a eu une très forte augmentation les deux fois du nombre de cyclistes, simplement parce qu'on a contraint un certain nombre de gens à poser leurs fesses sur une selle. Alors, est-ce qu'on peut penser que la prochaine grève des transports publics, qui est annoncée pour décembre, va peut-être aboutir à une augmentation importante des cyclistes ?
Ce qui est sûr, c'est que il faut une part d'incitation, et puis il faut effectivement des éléments, des événements ou des éléments déclencheurs, un peu de contraintes, quelque part.
Oui, justement, est-ce qu'il y a assez de contraintes actuellement ? On a l'impression quand même que un certain nombre de responsables, y compris politiques, sont un peu en train de revenir en arrière. Enfin, ils ont un double discours des fois. Ils ont un discours très écolo, et dans les faits, souvent, ils ont aussi il développe surtout des solutions dans lesquelles la voiture a encore une place très importante.
Oui, je pense que, moi, si je prends mon cas personnel, j'ai vécu l'Île-de-France de façon multimodale. Donc, le jour où on a fermé effectivement la voie express rive droite, j'ai perdu mon accès automobile à Paris. Et voilà, ce jour, donc je suis banlieusard, j'habite à banlieue sud, et ce jour-là, je me suis dit, voilà, c'est plus possible. Enfin, la question, c'est quand on a un rendez-vous, est-ce que on va être un quart d'heure, une demi-heure en retard, quoi. Donc, si c'est un rendez-vous important, à un moment donné, voilà, il y a des ruptures. Je crois que aujourd'hui, la voiture n'honore plus sa promesse, effectivement, de faciliter la vie urbaine. Elle est finalement relativement inadaptée. Elle n'arrive plus à se faufiler dans la ville, quoi. Donc, elle est devenue assez inefficace. Voilà, je pense que. Mais c'est quelque chose qui. Donc, effectivement.
Donc, il n'y a que la contrainte qui marche.
En tout cas, les politiques qui consistent à dire « essayons de résoudre la congestion », on sait bien que c'est un leurre. La congestion est inévitable quelque part dans une ville dense, dans la ville dense, en général. Il faut réduire l'incitation à l'usage de l'automobile dès lors que les alternatives existent, dès lors que les alternatives transport public existent, parce qu'on ne remettra pas tout le monde sur un vélo, et l'objectif n'est pas celui-là. Encore que le vélo à assistance électrique permet effectivement, en particulier pour les seniors, de les ramener plus facilement au vélo. Mais aujourd'hui, effectivement, si on met en place les moyens, que ce soit le transport public, et je pense qu'on les met en place aujourd'hui, le vélo, et ça, le vélo, je pense que c'est l'enjeu, c'est l'enjeu de la période actuelle, c'est l'enjeu des prochaines municipales, mettre en place des plans vélos cohérents avec des infrastructures de qualité, qui ne soient pas sur les trottoirs ou qui soient distincts des flux automobiles rapides. Voilà, c'est ça aujourd'hui la question. Donc ça, c'est l'aspect incitation. Et puis, je crois que voilà, la dissuasion pour les automobilistes, elle est là de facto aujourd'hui.
D'accord. Et dernier sujet, est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens comme vous, c'est-à-dire des ingénieurs qui apportent de la technicité dans le vélo? C'est-à-dire, est-ce que le vélo, c'est uniquement le mode de transport simple qu'on connaît, ou est-ce qu'il faut qu'on lui injecte de la technique?
Je pense que oui, on peut. D'abord, il y a effectivement le fait que aujourd'hui on a l'assistance électrique. Ça, c'est effectivement.
Oui, mais c'est pas ça que je pensais.
C'est quelque chose d'important. Mais il y a effectivement, par exemple, tout le domaine du numérique.
Oui, c'est ça. Ouais.
Où effectivement, alors ce qui est vrai, c'est aussi un constat, c'est que utiliser un téléphone portable sur le vélo aujourd'hui, c'est plutôt malaisé, quoi. Je pense que ça risque de le rester. Pendant un certain temps, encore que ça va s'améliorer. Et effectivement, c'est le travail des ingénieurs de faire ça. Oui, le vélo va effectivement avoir une dimension plus numérique. On peut, c'est le calcul d'itinéraire cyclable, bien sûr, mais c'est peut-être aussi la lutte contre le vol, le repérage des vélos, etc. Les nouvelles technologies peuvent effectivement améliorer le service rendu par le vélo. Oui.
Très bien. Merci Jean-Claude Degand. C'était la 60e de Rayon Libre. À Belle-Unheim, je recevais